vous écoutez RTL.
Passionné sur votre blog pour ce marché et cet objet, le sextoy. Alors pour commencer, on va faire une petite définition de l'animal.
Oui, parce qu'il ne faut pas confondre en fait le godemichet et le vibromasseur. C'est-à-dire que le godemichet, c'est il doit être actionné par la main, alors que le vibromasseur, lui, il bouge tout seul. C'est un peu technique, mais c'est un peu la différence entre les deux.
Et le godemichet représente un pénis, en fait.
Et le godemichet, à l'origine, oui, représentait un pénis. En fait, l'origine, c'est vraiment quand les femmes, dans les temps anciens, quand leur mari, leur conjoint partait en voyage ou à la guerre, il fallait bien le remplacer. Donc d'où le malentendu qui est venu après, d'ailleurs.
Ouais, le sextoy, il est de la famille des vibromasseurs, que les choses soient claires.
Absolument.
Voilà, alors, il y a 1000 formes de sextoy. Olivier, vous nous en avez d'ailleurs amené quelques objets.
Quelques-uns.
Ça représente un gros marché, Olivier Auroy, en France, et dans le monde, la vente des sextoys.
En France, on va approcher du milliard. Quand même assez considérable. Dans le monde, c'est beaucoup plus haut. On est autour de 30 milliards. On prévoit le double en 2020. C'est un marché qui est en train d'exploser véritablement.
C'est quoi le premier marché au monde aujourd'hui ?
La Chine.
La Chine, parce que la population chinoise.
La population, mais aussi parce que ce sont des grands producteurs et aussi des grands consommateurs. En fait, une enquête récente a montré que maintenant, leur production est réservée à la consommation intérieur,
local,
et qu'ils n'exportent plus. Oui, c'est marrant, on croit qu'on parle de pétrole.
Ah bah oui, mais c'est un marché et un business comme un autre. Est-ce qu'il y a un profil en France là de l'utilisateur et de l'utilisatrice de sextoy?
Eh ben, je croyais, en fait, en étudiant pour la question, pas du tout. Moi, j'étais resté sur le cliché de comme la chanson de Alain Bachung, Madame Rêve, d'Atomiseur, etc. Non, ce sont des hommes, c'est très utilisé dans la population par un homosexuel, par les couples, 38% des utilisateurs sont des couples, donc c'est presque un partenaire ou une façon de stimuler.
C'est pas du plaisir solitaire.
Absolument pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est très acheté par les hommes, et c'est acheté les hommes aussi pour leurs femmes.
Il y a quand même un Français sur cinq qui affirme avoir acheté cet objet dans l'année.
Oui, tout à fait.
C'est beaucoup, un Français sur cinq. Et combien n'osent pas le dire?
Ça reste quand même quelque chose de discret, de confidentiel. Moi, j'essaye dans l'agence d'en parler avec mes collègues. C'est difficile d'arriver à ce
sujet. Oui, on n'assume pas forcément.
Non, on n'assume pas forcément.
Ça s'achète tout, les sextoys, que vous dites, il faut être discret. Enfin, on est souvent discret quand on achète un sextoy. C'est Internet qui a complètement révolutionné la vente des sextoys.
Absolument, parce qu'en fait, quand on lit les interviews des designers qui se sont mis à faire des sextoys, ils disent qu'ils ont commencé à parler dans des sex shops et ils ont été choqués de l'ultra-réalisme des sextoys et du fait que ça s'adressait qu'à une frange, en fait, de la population.
Oui, c'était un peu glauque et un peu ringard.
Glauque et ringard.
Donc la force des industriels, des marques, des fabricants de sextoys, c'est d'avoir rendu l'objet presque design, acceptable, luxueux, mignon, kawaii.
Voilà, et surtout de répondre à tous les fantasmes. Parce qu'en fait, on le verra, mais ils prennent des formes maintenant diverses. C'est pour la forme d'un œuf. C'est plus simplement la réplique d'une verge, en fait.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, juste avant 21h, on a utilisé un extrait d'un reportage où la jeune femme décrivait en fait un bâton de rouge à lèvres qu'on ouvre, et qui se met à vibrer. Donc il y a un côté très ludique aussi, s'amuse avec ça. Ça s'appelle un sextoy, c'est pas pour rien. Toy.
Mais justement, c'est ce qu'avait dit Sonia Riquel. Elle avait dit, moi j'aime beaucoup le terme de sextoy parce qu'il y a un côté ludique. Mathalie Crassel, la designer très, très célèbre, elle appelle pas ça des sextoys, mais des love toys. Et elle a développé son propre, qui s'appelle 7e ciel ou 8e ciel, je crois, son propre produit. En fait, ils ont enlevé le caractère phallique du sextoy pour plus s'adresser à la femme.
Olivier Auroy, on a entendu une femme qui vantait les mérites de certains sextoys. C'est ce qu'on appelle des tupergodes, c'est ça?
Alors, il y a une...
C'est quoi? C'est la réunion tupergode?
Oui, c'est la réunion tupergode. Alors, en France, c'est une autre société qui le fait, en fait, mais c'est le même principe que le tupperware, c'est que les femmes se rassemblent et elles parlent de leurs fantasmes et elles échangent les objets.
Elles vont acheter vraiment l'objet qui leur convient, qui convient à leur fantasme, c'est ça?
Absolument, c'est-à-dire qu'elles bénéficient, en fait, du témoignage des autres femmes et c'est vraiment comme des réunions tupperware.
Ça vient des États-Unis, ça, non?
Ça vient des États-Unis, comme très souvent. Et en fait, ce que les femmes aiment, c'est que quand on achète en ligne, ça reste un acte solitaire, alors que quand on est en réunion, on peut partager ses expériences, en fait.
Pourquoi le sextoy n'est plus tabou? Comment s'est-il refait une virginité? On continue d'en parler dans la curiosité.
J'espère bien. RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Le sextoy, c'est un marché d'avenir pour les industriels. Pourquoi plaît-il tant? Comment séduit-il de plus en plus de consommateurs? C'est Olivier Auroy, l'un de nos sociétaires dans le studio de la curiosité, qui est directeur d'une agence de design, qui répond à toutes nos questions de curieux. Tiens, quand est-ce que le premier sextoy de l'histoire de l'humanité a été créé? On parle bien de sextoy, hein, pas oui, de Godemichet. Oui.
Alors, il y a des milliers d'années. Alors, dans les sextoys, on peut parler du Godemichet, mais alors, si c'est le Godemichet, c'est des milliers d'années ou en Égypte ou en Chine, vraisemblablement. Ouais. Mmh. Il paraît qu'on aurait retrouvé un sextoy en pierre dans une grotte en Allemagne. Enfin, moi, en pierre, je trouve que c'est.
Un silex, quoi.
Ouais, ça fait un petit aïeux. Donc, non, il y a des milliers d'années. Mais encore une fois, c'est vraiment né avec le fait que la femme devait pallier le départ de son conjoint, de son homme, quoi.
Et le sextoy au sens. Alors là, pour le coup, objet.
Oui, objet.
Électrique, connecté,
après
là,
alors, disons que les premières tentatives, c'est à partir des années 70.
Ouais.
En fait, tout a commencé vraiment avec la révolution sexuelle, mais qui est plus une histoire d'individualisation de la sexualité et du plaisir. Faut quand même rappeler qu'en 70, une femme de 50 ans sur deux ne faisait plus l'amour, alors que la même enquête en 2006, 90% des femmes de plus de 50 ans disent j'ai une vie sexuelle active. Donc on voit l'évolution et on voit que la sexualité ne s'arrête pas.
Les sextoys et les sexshops, ils sont longtemps tenus et conçus par des hommes.
Conçus par des hommes et aussi pour des hommes. Et en fait, ça a changé à partir du moment où les femmes ont dit mais moi, je veux me préoccuper de mon plaisir, je veux qu'on s'occupe de mon plaisir. Et ce que présentaient les sexshops ne convenait plus.
Ça veut dire que c'est des séries comme par exemple Sex and the City ou. C'est vraiment très récent, donc j'espère que c'est quand même arrivé avant, mais le film 50 Shades of Grey, tout ça, ça a permis. Ouais. Une sorte de libération de l'objet et
oui,
de la.
Mais c'est vraiment parallèle avec le développement d'Internet et puis des techniques nouvelles, donc les plastiques, de meilleurs plastiques et puis tous les objets connectés. Mais avant ça, il y a eu quand même dans les années 70, il y a eu quand même les rappelons-nous le film de Jules Jacquin, Histoire d'eau, qui reprend le bouquin de 1954. Il y a eu L'Empire des Sens où c'est un des premiers films où on voit, je crois que c'est des boules de geisha, je sais plus. Il y a eu Gorge profonde. Aux États-Unis, il y a quand même eu des paliers de franchi avant d'arriver à Sex and the City et surtout 50 Shades of Grey, qui est en fait le mummy porn, c'est-à-dire toute cette littérature érotique qu'on retrouve chez Harlequin, ça s'appelle Spicy and Sexy. Nous, on a travaillé pour eux d'ailleurs. Donc, ce mouvement de fond qui touche la société dans son ensemble, il est venu avec Sex and the City et 50 Shades of Grey.
Donc, c'est grâce à tout ça que Thomas Hugues tient dans la main.
Ça,
de petit,
comme dirait Coluche, ça tient dans la main. Ça ressemble
c'est un schmilblick.
Ça ressemble à un œuf rose. Ouais. Alors moi, j'ai l'objet qui vibre, donc qu'on se glisse dans le sexe. Et Sidonie, elle a la télécommande en fait.
Je peux vous dire que j'ai mis à fond là.
Oui, mais pour l'instant, il a pas démarré.
Oh,
il a pas démarré. Comment ça marche, Olivier Auroy? C'est un jeu dans un couple,
oui,
par exemple.
En fait, on le disait tout à l'heure, hein, c'est les couples l'utilisent pour varier leur quotidien, pour briser la routine.
Ça y est, ça vibre.
Et là, on est sur un
objet qui
est sur moins de 10 mètres. C'est sur moins de 10 mètres. Il y a un certain nombre de produits, même un produit français qui s'appelle le Déclic, qui reprend la fameuse bande dessinée de Manara.
Ah, c'est magnifique bande dessinée.
Magnifique bande dessinée. Mais il y en a un qui existe qui s'appelle le Toy, où là, c'est via mobile. Si la femme est, je ne sais pas moi, à Montpellier et l'homme est à Paris, il peut déclencher en fait sur un simple texto. Le vibromasseur.
Et alors vous nous disiez qu'il y avait, il y avait encore plus sophistiqué, ça s'appelle quoi? Bisensory.
Alors oui, ce sont des Bretons, vive la Bretagne, ça s'appelle Bisensory. Et en fait, le sextoy se met dans le vagin de la femme, et en même temps, elle écoute de la littérature érotique via son portable, son smartphone, et lors des passages un peu chauds, le sextoy se met à vibrer.
Au moment précis,
la scène est super.
C'est une formidable idée.
Bah voilà. Moi je trouve c'est intéressant, ça va relancer la littérature.
On parle beaucoup. D'accord. Et un peu le sexe aussi. Vous nous avez parlé évidemment de sextoys, mais qui concernent quand même plutôt les femmes. Donc achetés souvent par les hommes pour leurs femmes ou par les femmes qui veulent assurer leur propre plaisir. Des sextoys utilisés aussi par les homosexuels. Mais les hommes hétéros, ils ont quoi pour eux?
Alors oui, dans les sextoys, il y a aussi les fameuses poupées gonflables.
Ah oui.
C'est grand ça, c'est pas très discret, mettre dans le sac de sport.
C'est pas très discret dans le sac de sport.
Ça dépend avant ou après avoir été gonflé.
Non, mais je vais vous dire, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des poupées gonflables pour hommes, mais il n'y en a pas pour femmes. Et en fait, les enquêtes montrent, les femmes disent, ce qui m'intéresse, c'est enfin, ce qui représente le pénis ou l'objet.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très contradictoire.
Ça fait plaisir aux hommes, non?
En tout cas, les femmes n'ont pas besoin du reste. Oui. Alors que les hommes, dans les déclaratifs, disent, j'ai besoin de toucher ce qui représente les seins, j'ai besoin de toucher la tête et tout. Donc je trouvais ça, c'est un peu une idée reçue. C'est marrant.
Mais en même temps, si Denis le disait, c'est vrai que c'est un objet quand même imposant.
Qui fait une moyenne de 30 kilos et qu'il n'est pas facile à déplacer et ça ne plaît pas. Et donc, il y a des choses qui se développent, notamment au Japon, parce qu'ils sont complètement dingues, que c'est à la forme d'un thermos, le monsieur met son sexe dedans, c'est connecté à l'écran, il regarde une scène et puis voilà.
D'accord, c'est connecté.
Voilà, parce que
oui, parce qu'on a bien compris. Donc,
on voit la fin du film.
Chacun choisit son fantasme sur son écran et happy ending. D'accord.
Il y a deux femmes auxquelles on doit cet essor du sextoy en France. Oui. C'est Lerikiel, mère et fille.
Absolument. En fait, c'est pas un hasard. Hein. Rappelons-nous, Sonia Riquiel, c'est les petits pulls impudiques portés sans soutien-gorge. Il y avait cette phrase de Frédéric Rossif, « Les autres font des robes pour sortir. Toi, Sonia, tu les fais pour rentrer. » C'était magique. Et en fait, ce qu'ont aimé Lerikiel, c'est la vision épicurienne des Anglais avec les sex toys. Et donc, ils ont commencé à ouvrir une boutique. Ça a été ensuite, un peu plus tard, tous les mouvements du porno chic, avec Dior Addict, avec Tom Ford. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Nathalie Giraud en France en 2003, juste après Riquel, qui a fait un truc qui s'appelle Piment Rose, qui est une des premières sociétés de vente par correspondance.
Il y a des grandes marques, même de grandes distributions qui vendent des sextoys.
Ça y est, ça commence. On commence à le voir. On l'a vu chez Monoprix. Dans les pays étrangers,
c'est un
grand magasin, c'est Sephora.
Magasin de beauté.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est vendu.
L'orgasme Rambo.
C'est vendu en fait au rayon hygiène, santé. Mais c'est ça qui est intéressant. On n'en est pas encore comme les Anglais. Les Anglais, il y a vraiment des chaînes de magasins sextoys complètement assumées. Nous, c'est.
Alors si ça marche aussi bien en France, Olivier Auroy, est-ce que c'est parce que nous sommes un pays de tradition libertine?
Oui, mais moi je trouve qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on est un pays de tradition libertine,
toute de littérature. En tout cas,
si on repense à la religieuse de Diderot, justement, les religieuses qui utilisaient n'importe quel objet, des cierges à, je ne vais pas terminer ma phrase, pour se donner du plaisir. Donc on a cette littérature-là.
Ne parlons pas de Sade.
Voilà. Néanmoins, apparemment, on est en retard. On a 25 ans de retard sur les Anglais, on a 40 ans de retard sur les Allemands. C'est assez intéressant comme paradoxe.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Les gens ont envie d'être bien. Ils veulent avoir une sexualité épanouie.
RTL.
Ouh. Ah ouais, mais ça change en plus.
On l'appelle la Rolls Royce du sextoy. I'm
too sexy for my shirt. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. RTL.
Si vous venez de nous rejoindre, vous venez assister à un extrait d'un Tupper God. En fait, c'est une nouvelle forme de vente à domicile, un peu calquée sur les ventes des Tupperware, avec des hommes et des femmes qui viennent chez vous, vous faire la démonstration de sex toys. Comme ça, vous pouvez choisir en fonction de vos envies, vos fantasmes. Pourquoi cet objet érotique est un marché en pleine expansion? On a les explications avec notre invité Olivier Auroy, qui est directeur d'une agence de design. Vous nous racontez l'histoire de ce sex toys qui est devenu un objet acceptable, même désirable pour nous. Il a été pris en main, si j'ose dire, dans les années 2000 par les designers.
Vous les avez toutes faites.
Toutes prises en main par les agences mais des grandes entreprises, dans un but très précis de le rendre parfaitement utilisable et commerciable.
Absolument. Mais alors, en fait, les designers qui ont changé la face du sextoy, si je puis dire, ils viennent de P&G, de Motorola, de Colgate. En fait, ce sont des gens qui sont habitués à travailler sur l'ergonomie des objets. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé donc sur l'ergonomie, parce que ça rigole pas quand même. C'est quand même un objet qu'on met sur le corps, sur le confort, sur les sensations, sur les formes, sur l'expérience aussi. En fait, c'est comme designer un site internet ou un objet de consommation courante. On travaille sur l'expérience, sur les sensations.
Donc, ça veut dire qu'on va, avant de lancer un objet, interroger des utilisateurs, évidemment.
Oui. On interroge par exemple les utilisatrices, on leur dit mais qu'est-ce qui vous provoque des sensations? Ce qui est intéressant et assez rassurant, je trouve, c'est qu'on se rend compte que c'est à 20% du physique, du physiologique, et à 80% de la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire qu'on raconte est aussi importante que l'objet qui permet de la développer. Et en fait, on retrouve les tendances actuelles des marques et du design, c'est-à-dire ce qu'on appelle le storytelling, c'est raconter des histoires.
Ouais. Alors, comment un objet comme ça peut raconter une histoire? Par exemple, ce sextoy qu'on a entre les mains.
Alors, c'est un womanizer, c'est son nom. Alors, en plus, c'est très drôle, il y a un petit Swarovski, enfin, c'est très...
Il y a un petit diamant. Il y a de la dentelle dessinée.
Il y a de la dentelle, donc c'est très féminin, c'est rose. Ben, c'est un stimulateur de clitoris.
Eh oui, Thomas.
Et moi, ce qui m'intéresse en voyant cet objet, ce qui m'intéresse en voyant cet objet, la publicité dit un orgasme en 60 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la recherche de la performance, de l'orgasme à tout prix.
Oui,
on est dans cette obligation aujourd'hui.
Il y a un peu ça. Il y a une société suédoise qui s'appelle Lelo, qui est une des sociétés leaders en sextoy dans le monde, qui a même fait une assurance pour couples insatisfaits, c'est-à-dire qu'elle vend son dildo, son sextoy, et si le couple rompt avant la fin de l'année, elle dit qu'elle rembourse une partie du sextoy. Donc il y a un côté performance, qui est d'ailleurs là aussi contradictoire, puisqu'il y a un tel mouvement anti-pornographie, performance, machin. Dans le cas des sextoys, on revient un petit peu à ça.
Vous dites, Olivier Roy, qu'on raconte des histoires, c'est le fameux storytelling, même appliqué au sextoy. Quelle est l'idée, par exemple, de cette marque Smile Makers?
Moi, je la trouve très drôle. Elle a une promesse assez claire. Ils disent, nous, on fait des produits drôles, en silicone, silencieux, avec 4 heures d'autonomie. Donc, on trouve les mêmes problématiques. Avec
donc, c'est plus 60 secondes, c'est 4 heures d'autonomie, c'est pas mal.
Là,
ça laisse plus de temps.
C'est plus 60 secondes. Et en fait, c'est les mêmes problématiques avec la téléphonie.
On peut le réutiliser plusieurs fois. Hein. C'est pas 60 secondes une fois, il y a des piles.
Vous faire rire,
y a pas de souci. Hein.
Non, et ce qui est très drôle avec Smile Maker, c'est que c'est la forme. Il y en a un qui s'appelle le pompier, il y en a un le coach de tennis, il y en a le millionnaire.
Ah, il y a même le français.
Le français qui a un petit béret, ouais. Et en fait, ils associent avec des histoires.
Est-ce qu'il y a des sextoys de luxe, Olivier Roy, qui peuvent valoir très cher?
Il y en a eu
La maison Victor, par exemple, c'est un joaillier de la place Vendôme.
J'avais failli l'acheter, je me rappelle, mais c'était un peu trop cher.
Ouais, il s'appelle Victor Fantasme, je crois. Alors, il est serti de diamants, de pierres. Bon, c'est pour des gens richissimes. C'est un bel objet, hein, 40 000 euros. C'est un bel objet.
Oui,
mais il faut savoir que ça, c'est les plus chers, mais les moins chers, ils font 5 euros, ils s'écaillent, ils sont de mauvaise qualité.
Et il y a même des sextoys Tour Eiffel. Alors ça, c'est aussi une nouveauté, c'est un peu pour vendre la France à l'étranger.
Oui, c'est la Tour Eiffel, ça s'appelle, j'adore. La Tour Eiffel, c'est des Français qui ont fait ça. C'est fabriqué à Oyonnax, dans ce qu'on appelle la Plastic Valley, j'adore. Mm-hmm. Et eux, ils se sont dit, bon, on n'arrête pas de dire que la Tour Eiffel est phallique, et allons jusqu'au bout. Et ça cartonne, notamment chez les Chinois.
Le marché du sextoy, il s'est, fractionné, démultiplié, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que la sexualité est comme ça.
Exactement.
Il y a tant de formes de sexualité différentes qu'il a fallu s'y adapter.
Nous, on réalise pas. Enfin, je pense que quelqu'un aujourd'hui qui a 15 ans, 16 ans ne le réalise pas, mais on le sait. On est quand même une société où maintenant, quelqu'un qui est transgenre, par exemple, fait la une des journaux. Toutes les formes de vie, de style de vie et de sexualité, maintenant, peuvent s'exprimer. Donc forcément, le marché du sexe récupère ça.
Est-ce que le sextoy est un objet qui ne fait plus peur? Parce que, par exemple, vous le disiez, c'est un objet qu'on peut mettre, qu'on met sur son corps ou dans son corps, il y a des notices, des mises en garde, des règles de sécurité. Ça, c'est quelque chose auquel fait attention le consommateur?
Oui, mais sur votre premier point, à savoir sur les formes, il y a par exemple une marque qui s'appelle Love Crave. Leurs vibromasseurs, on dirait des petits rouges à lèvres, on dirait des clés USB. Ils cartonnent en ligne et en fait, ça ne ressemble pas un sextoy, et il y a effectivement des notices d'utilisation, attention à ne pas le mettre dans l'eau, attention à la façon dont vous l'utilisez, c'est extrêmement normé.
C'est quoi l'évolution prochaine du sextoy?
Je pense que l'avenir, c'est la domotique, c'est les objets ultra connectés, ça va être de plus en plus sophistiqué, à distance.
Vous écoutez RTL. Voilà.